On va maintenant faire une petite incursion dans le monde de la littérature sportive. Je vous ai déjà parlé de ma carrière de soccer amateur qui était du soccer amateur, mais qui a quand même duré 25 ans. Et durant ces années-là, j'ai fait 4 ou 5 commotions cérébrales, dont 2 très grosses qui m'ont amenée à l'hôpital et tout. Je suis pas si vieille que ça, mais juste assez vieille pour pouvoir vous dire qu'à mon époque, on savait pas grand-chose là-dessus. D'ailleurs, vous voyez, je suis même pas capable de vous dire le nombre exact de commotions que j'ai fait. Il y en a, on ne sait pas trop si c'en était une ou pas, c'était pas trop diagnostiqué. On ne suivait pas ça de près. Alors moi, j'ai énormément de questions non répondues et je sais que je ne suis pas seule dans cette situation-là. Et il y a un livre qui est sorti jeudi en librairie qui a vraiment capté mon attention. Le titre, c'est tout simplement « Commotion cérébrale ». C'est une œuvre signée par la journaliste sportive Diane Sauvé. C'est co-écrit avec 2 docteurs et 1 neuropsychologue en plus. Et je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que j'ai vraiment appris en le lisant, et je pense que c'est un sujet qui va interpeller plusieurs personnes. La journaliste Diane Sauvé est avec nous. Bonjour, Diane.
Bonjour, Évelyne.
Ça va bien?
Ça va bien, et je suis très surprise de savoir et très malheureuse d'apprendre que tu as eu autant de commotions cérébrales.
C'est quoi votre petit nom déjà? Non, je fais des blagues. Je considère que je m'en suis quand même bien sortie malgré
ben
tout
oui.
Ça, mais c'est effectivement un sujet qui me tient à cœur. Et ben alors j'ai dévoré votre livre et je vous laisse nous expliquer le concept qui est très bon, je dois dire. Vous avez interviewé 10 personnalités publiques qui se confient sur leur historique de commotion, mais c'est pas toutes des personnalités sportives. Là, il y a une comédienne, Élise Marquis, la journaliste Isabelle Richer, il y a même une photographe, il y a de tout. C'était quoi votre but initial avec le livre? Est-ce que c'était juste d'informer ou s'il y avait aussi un désir de faire en sorte que les gens se reconnaissent dans les histoires présentées?
Exactement. Vous avez exactement tout dit. En fait, on veut que les gens se reconnaissent, on veut briser l'isolement. Et quiconque a subi une commotion sait à quel point ça peut être angoissant. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas est-ce qu'on va rester comme ça. Et quiconque a subi une commotion sait à quel point on peut être incompris, on se sent incompris car le mal est invisible. On n'a pas de béquilles, on se promène normalement, à première vue, tout va bien, sauf que ça ne va pas et ça ne va pas du tout. Alors nous, ce qu'on a voulu faire avec ces 10 personnalités-là, issues de tous les milieux, parce qu'on voulait avoir un éventail varié, parce que les commotions, c'est pas seulement l'apanage du grand sportif. On peut avoir un accident de voiture, on peut frapper quelqu'un sur le coin de la rue, on peut glisser sur la glace, sur les fesses et subir une commotion. Et ça arrive souvent, plus souvent qu'on pense. Alors, on voulait rejoindre le plus de gens possible avec les récits de ces personnalités-là, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Si vous me permettez, je peux les nommer. Martin Bédard, des Alouettes, Alexandre Despatie, ancien plongeur, Marie-Ève Dicker, boxeuse, Simon Gagné, ancien joueur de hockey, tout comme Joey Junot, Heidi Ollinger, qui est une photographe et qui a fait les photos les magnifiques photos avec Carl Essard de ce livre, Élise Marquis, Isabelle Richer, ma collègue journaliste, Marianne Saint-Gelais, ex-patineuse de vitesse, et Sébastien Toutant, champion olympique de surf des neiges. Alors, tout ce beau monde-là nous raconte leur histoire et aussi, c'est important, leur retour vers la normalité et leur chemin du retour et de la récupération, mais à la fin de chaque chapitre, ce qu'on a voulu faire, c'est le pont avec la science.
Oui.
Alors, tous les thèmes qui sont abordés dans le chapitre, en fait les thèmes majeurs, sont repris à la fin et on vous dit ce que la science sait pour chaque sujet. Un exemple. Par exemple, dans le chapitre de Marie-Ève Dicker, elle nous raconte qu'elle a changé son alimentation. Alors, est-ce que l'alimentation peut soulager certains symptômes? Qu'est-ce que la science sait à ce sujet-là? Il y a des facteurs. Est-ce qu'il y a des facteurs qui augmentent les risques de complications chez certaines personnes? Est-ce que la méditation peut aider à réduire des symptômes? Pourquoi mes symptômes ont pris du temps? Ça, c'est un autre mythe qu'on a voulu déboulonner. Parce que la commotion cérébrale, il peut y avoir l'impact, mais les symptômes peuvent prendre plusieurs heures, même des jours.
Des jours, jusqu'à 48 heures, 72 heures même pour certaines personnes, oui.
Voilà, alors pourquoi mes symptômes arrivent plus tard? Est-ce que l'exercice physique peut finalement s'avérer efficace dans le cas d'un syndrome post-commotionnel, c'est-à-dire dans le cas où la commotion perdure dans le temps, ça dure plusieurs mois? Et ça aussi, c'est un autre mythe parce qu'on pense tout le temps que guérir d'une commotion, c'est d'aller se cacher dans un petit coin noir. Mais non, ça peut aider l'exercice physique. Alors, c'est vraiment ça qui m'a plu aussi beaucoup dans le projet, c'est de relier les histoires et les leçons de résilience, il faut le dire, à du concret.
Ouais.
Comment ça marche?
Vous appelez ça dans le livre l'angle scientifique et c'est ce que j'ai préféré aussi. Là, c'est vraiment, ça vient doubler chacun des témoignages. Et puis, je vais vous en donner d'autres, moi, des exemples qui m'ont interpellée, puis vous pourrez les commenter. Sébastien Toutant, le planchiste, lui fait le récit d'une chute sur la tête qu'il a faite. Il se sentait pas bien, sur le coup, mais le lendemain, c'était encore pire. Il dit lui-même, j'étais off, là. Je le sais que ça allait pas. Il est habitué de chuter, de vivre avec la douleur, mais là, il savait qu'il y avait quelque chose de pas comme d'habitude. Il a passé le test pour déceler les commotions cérébrales 2 fois. Il l'a réussi à chaque fois. Le médecin qui le suivait lui a donné le go pour retourner dans la compétition. C'est lui-même qui trouvait qu'il était pas assez bien, qui a décidé de pas y retourner. J'ai d'abord été vraiment impressionnée par sa sagesse, mais aussi par le fait qu'il ait réussi les tests, même s'il était clairement commotionné, là. Votre angle scientifique, vous l'expliquez justement, là, qu'il n'y a aucun test qui peut déceler à 100% les commotions cérébrales, d'où l'importance d'écouter, de s'écouter les symptômes, mais c'est quand même surprenant en 2021.
Oui, c'est surprenant. C'est arrivé il y a quelques années quand même, mais on essaie de peaufiner le plus de tests possibles et le mieux les tests possibles, mais ça arrive encore. On peut passer dans les mailles du filet. Mais lui, il faut dire, il avait une certaine habileté avec l'équilibre et ces choses-là, et c'est comme ça qu'il a pu, entre guillemets, contourner les tests. Mais il y a aussi, et ce qui est vraiment troublant, des athlètes professionnels et même des athlètes de niveau secondaire, d'école secondaire, qui trichent au test de référence au football. Et c'est ce que Martin Bédard des Alouettes nous raconte dans son chapitre.
Oui.
C'est-à-dire que il y a des tests de référence qui sont imposés avant chaque saison pour que, quand on subit une commotion, on doive repasser le même test et faire aussi bien, sinon mieux que le test pour retourner au jeu. Alors, il y a des athlètes qui, sciemment, font exprès de sous-performer à ces tests-là pour être capable de retourner au jeu plus vite.
C'est fou,
troublant.
Ouais.
Ça, c'est troublant, oui.
Mais en même temps, ça me surprend pas parce que c'est le principe même d'être un athlète, c'est d'être quelqu'un qui est jamais capable de s'arrêter et qui veut tout le temps plus. Donc, qui donne. Bon, je ne cautionne pas ça, mais je peux comprendre quelque part que surtout au niveau secondaire, ce sont des jeunes. Alors, ils voient pas le risque à long terme de ça. Mais je notais aussi dans votre livre que c'est quelque chose qui revient souvent chez les athlètes d'y aller malgré la douleur et justement malgré le danger que ça représente. Puis je pense à Alex Despaty qui lui s'apprêtait à aller à ses tout derniers Jeux olympiques et il n'était pas tout à fait remis justement de sa commotion, mais il a quand même décidé d'y aller. Ou Marie-Ève Dicker, qui elle se pensait correcte pour retourner se battre, elle s'est fait demander à combien pourcent de tes capacités tu penses que tu es. Elle a dit 80 et dans les faits, elle était à 25% de ses capacités. Donc c'est comme si quand tu es un athlète, tu es né pour y aller, tu sais.
On est des machines quand on est des athlètes. Et là, on exclut la personne qui parle. Mais ça m'a vraiment aussi beaucoup marqué à quel point on oublie la santé. Mmh. On est vraiment dans l'adrénaline du match ou de la compétition ou de l'enjeu de ce qui s'en vient. Je pense par exemple à Marianne Saint-Gelais qui, à la veille de ses sélections olympiques, subit une commotion. C'est la dernière affaire à laquelle elle pense, sa santé. On est vraiment programmé pour performer et c'est ça qui est important. Et on a aussi peur de laisser tomber ses coéquipiers quand je pense à Joey Junot.
Oui.
Lui, il est d'une autre époque, à l'époque où on parlait même pas de commotion, mais quand on lui a diagnostiqué ses vraies commotions, on a bien senti que lui, il se sentait mal. Il voulait pas laisser tomber ses coéquipiers. Et le regard des coéquipiers que nous explique très bien Simon Gagné, ancien joueur de hockey aussi, qui lui a dû s'éloigner de ses coéquipiers pour l'aider à récupérer parce qu'il sentait le regard des autres, il sent l'incompréhension des autres et il la comprend aussi, cette incompréhension-là, parce que ça paraît pas qu'on est malade, ça paraît pas que ça va pas.
Diane, merci. On est obligé de se quitter ici parce que j'ai une autre invitée après vous, mais je vous félicite pour votre travail qui est vraiment étoffé. C'est super pertinent, surtout en 2021. Je l'ai lu, je vais le relire, je le garde et je le conseille à tout le monde. Merci infiniment.
Ah, c'est trop gentil. Merci.
Bonne journée.
Bye.
C'était Diane Sauvé, journaliste sportive et autrice du livre « Commotion cérébrale » avec les éditions Flammarion, disponible en librairie depuis jeudi. Et après la pause, on parle à une athlète de 24 ans, tout nouvellement quadruple médaillée d'or dans sa discipline. Jacqueline Simoneau est avec nous dans 3 minutes.